France Culture.
Située au cœur de Lyon, la prison de Montluc a été le principal lieu d'enfermement de l'occupant allemand. Entre 1943 et la fin de l'été 44, près de 10 000 personnes y sont internées. Dans ces cellules passent notamment Jean Moulin, Tolo Avologne, Jean Berbassian ou encore les enfants de la colonie d'Izieux. Des résistants, des juifs, tous victimes des nazis et de leurs complices français.
Ce lieu, il représente quelque chose de central dans le fonctionnement de la police allemande, ce qui s'appelait la SIPO-SD, qui est généralement connue sous le nom de Gestapo en France.
Tal Brutmann, historien.
Mais il faut vraiment comprendre que la SIPO-SD est constituée pas uniquement d'Allemands, mais d'énormément de Français qui travaillent au sein de la police allemande. Ce ne sont pas des auxiliaires, ce sont vraiment des hommes qui sont recrutés, qui sont dotés de tout ce qui fait que vous êtes un policier au sein de ces services, c'est-à-dire d'une carte qui en fait des membres à part entière de la police allemande, même s'ils sont sous ordre allemand, ils ont un certain degré d'autonomie. Et en général, ils sont membres des partis de l'ultra-collaboration. Une grande partie des quelques 10 000 personnes qui ont transité par Montluc a été arrêté par des membres de la police allemande qui étaient des militants français de l'ultra-collaboration. S'il fallait prendre qu'un seul exemple, l'historien Marc Bloch, qui va être panthéonisé en 2026, a été arrêté par la police allemande en mars 1944, mais les hommes qui l'ont arrêté sont des membres du Parti populaire français de Jacques Doriot qui travaillait pour le compte de la SIPO-SD.
Les ultras de la collaboration, épisode 3, des Français en guerre contre d'autres Français. Une série documentaire de Jean Bulot, réalisée par Gaël Gillon.
Il y avait combien d'Allemands à la Gestapo de Bordeaux ?
Mais non, ce terme Gestapo, enfin, moi, je veux bien qu'on emploie pour la commodité du travail, mais...
Ils étaient combien en tout ?
C'était une petite équipe, je sais pas, disons une trentaine.
Et il y avait combien de Français avec eux ?
40.
Jérôme Martineau, dans le documentaire « Français si vous saviez » de André Harris... et Alain Séduit, 1973.
J'ai la curiosité de consulter un ouvrage sur la Gestapo. Alors je vois section AB, terrorisme communiste, section C, déportation, section D, lutte anti-juive, section E, lutte contre les résistants.
De toute façon, ces salons étaient assez fréquentés. C'était, si vous voulez, comme un grand service administratif d'un pays occupé et d'une administration nécessaire au fonctionnement général de la vie quotidienne des Français. Et tout le monde y allait, que ce soit pour obtenir des laissez-passer, que ce soit obtenir pour pouvoir transporter un train de pommes de terre, que ce soit pour des problèmes de ravitaillement, que ce soit pour des problèmes de vie quotidienne, je vous assure que ces salons ne manquaient pas de clientèle.
Mais vous n'étiez pas exactement dans la section pommes de terre.
Non, j'étais côté répression, mais d'une répression intelligente.
Mais enfin, on a quand même fusillé des gens à Bordeaux aussi.
On a dû fusiller des gens comme ailleurs.
Et c'était pas quelque chose qui vous préoccupait, ça ?
Préoccupé, vous savez, quand vous avez fait vous-même, on pourrait presque dire, pris le pari de vivre ou de mourir dans un jeu que vous avez pris, votre vie ne compte plus beaucoup, si vous voulez. La vie des autres compte moins. Puis il ne faut pas oublier une certaine force de vie quand vous avez 20 ans, si vous voulez, qui vous entraîne... sans beaucoup de réflexion.
Et Jim Lorrain, pendant cette année 1944, ces auxiliaires français, de quoi se sont-ils rendus coupables ?
Des pires choses qui ont été commises en France dans cette période. Par quoi on commence ? On va aller croissant. Ils sont rendus coupables tout d'abord de dénoncer beaucoup, d'espionner, dénoncer... de rafler des jeunes pour le STO qui sont envoyés en Allemagne, souvent dans des conditions pires, comme ils n'ont pas voulu y aller, on les encadre plus, on les envoie dans des camps plus surveillés, les conditions sont plus dures, etc., etc. Une partie d'entre eux vont mourir dans les bombardements en Allemagne, ne l'oublions pas, donc ils ont une part de responsabilité aussi là-dedans, puisque c'est eux qui sont allés les chercher. Ça, c'était une de leurs grandes activités. Ils sont rendus coupables aussi de pillage général, de petits larcins, par exemple à la gare Saint-Lazare. Là, ils vont non seulement essayer de repérer les jeunes qui doivent montrer qu'ils ont des papiers comme quoi ils travaillent bien ici, etc., etc. Donc, ils sont douteux et les emmènent au poste si besoin est, s'ils pensent qu'ils sont douteux. Mais ils vont aussi faire ouvrir les valises des gens. Et ils vont trouver, par exemple, des choses qui sont ramenées au marché noir. Les Français, surtout les Parisiens qui ont pas assez à manger, vivent beaucoup du marché noir. Et donc, on va récupérer... Ah, on confisque. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça. On confisque et éventuellement, on menace d'une amende, autre chose. Donc, si vous me donnez 500 francs, vous n'aurez pas d'amende qui vaut 2000. Enfin, bref. Toutes ces petites choses qui sont insupportables à la population. Ils sont coupables d'avoir profité de la situation, bien sûr. Et après, ils sont coupables de des choses bien pires. Ils sont coupables d'avoir arrêté, souvent avec violence, insultes, etc., etc., d'avoir torturé pour une partie d'entre eux. Alors, c'est souvent des personnages spécialisés pour ça. C'est-à-dire que ceux qui aiment ça, ceux qui y trouvent des avantages parce qu'ils se font bien voir des Allemands et autres, s'ils ont des informations à tirer, etc. Ils sont responsables d'avoir conduit en déportation, parce que c'était aussi une de leurs fonctions. C'est, on a des gens en prison, il faut les conduire, par exemple, à Compiègne, le camp de regroupement, avant d'aller dans les camps de concentration d'Allemagne. Les gendarmes français ne sont plus sûrs là-dessus parce qu'il y a trop d'évasion. Eh bien, on va les utiliser, eux, pour ce genre de choses. Alors, parfois, c'est gendarmes. Mais parfois, on va les mettre avec les gendarmes pour surveiller les gendarmes. Donc, on dit, les gendarmes nous ont accompagnés. Oui, les gendarmes étaient accompagnés par des gens qui les surveillaient et qui les empêchaient de ne pas voir qu'un tel s'évadait du train, etc., etc. Et puis, de torture, terrible. Alors, c'est souvent des brutes épaisses qui pensent pas à la torture, qui la pratiquent. Alors, avec plus que la baignoire, dont on a beaucoup parlé, c'est le nerf de bœuf, hein, qui est le moyen préféré de l'époque. Et les matraques, les trucs, enfin bref, des gens suspendus. Des horreurs. J'en ai mangé beaucoup. Dans mes lectures, j'ai vu des choses, mais bon. On a du mal à prendre du recul par moment, quand même, même s'il faut. Et puis, ils sont capables de meurtre. Alors, je dis en attaquant, par exemple, des maquis. On est sûr que c'est eux qui ont tiré et abattu un tel. En abattant des gens qui étaient en prison. En étant responsable de meurtre à la suite des tortures. C'est-à-dire que la personne meurt des sévices. Hein. Il y a toute une série comme ça. Et puis, ils sont responsables d'avoir trahi leur pays, bien sûr. Donc, ils sont coupables de plein de choses.
Depuis des années, pour un livre, Gilles Morin s'enferme dans les archives à la recherche de ses ultras de la collaboration et de leurs victimes. Il y a passé des semaines, des mois, plongé dans ces cartons qui, souvent, sointent la mort. Si nous pouvons aujourd'hui raconter les crimes de ces Français sur le sol national et comprendre à travers différentes échelles leur lien, c'est notamment grâce à lui. En 2015, cet historien est à l'initiative d'une pétition qui a eu pour conséquence de faciliter l'accès à l'ensemble des archives de la Seconde Guerre mondiale, notamment celles liées à l'épuration. Alors combien étaient-ils, comme M. Martineau, à être des Français agents de la Gestapo ? Étaient-ils liés au parti collaborationniste, à Vichy ou encore à la milice ? Et enfin, quelle était la place de ces bourreaux français dans la machine oppressive nazie ?
Les Français sont recrutés quasiment dès l'arrivée des Allemands en France par les services allemands. Alors, il y a une multitude de services.
Tal Brutmann.
Sans se perdre dans les détails. Vous avez l'Abwehr, qui est le service de contre-espionnage de l'armée allemande, qui va recruter énormément d'agents français. Et qui ne vont pas se contenter que de faire du renseignement. Ils vont aussi infiltrer les réseaux de résistance, aussi bien en zone occupée qu'en zone libre. Et puis la CIPO-SD qui va relativement rapidement recourir soit à des informateurs français, comme n'importe quel service de police, ils ont besoin d'informateurs, soit à des Français qui deviennent membres à part entière de la police allemande. Cette police allemande a un problème qui va être des effectifs très réduits. On estime que ça dépasse guère plus de 2500 hommes en 1942 pour l'ensemble de la zone occupée. Avec une multitude de missions, donc du renseignement, la lutte contre les trafics divers et variés comme le marché noir, mais aussi théoriquement la prostitution, faire de la lutte contre la résistance et parmi encore d'autres missions, s'occuper des Juifs. Donc 2500 hommes pour quasiment les 3/5 de la France. Et à partir de novembre 1942, quand la zone libre est envahie et devient zone sud, c'est à peu près le même nombre d'hommes qui sont cette fois étirés sur l'ensemble du territoire national. Autrement dit, il y a très peu d'effectifs.
La mi-42, après l'entrée en guerre contre l'URSS, après les attentats des communistes, après un ensemble de choses, l'armée accepte,
Gilles Morin,
que le CIPO-SD, qui jusqu'ici était très peu présent en France et avait des attributions très limitées, c'est-à-dire essentiellement politiques, devienne l'organe qui assure la répression. Alors l'armée peut venir aider. On pouvait avoir un bataillon de la Wehrmacht qui a appelé pour participer à une opération de représailles, à des arrestations, à des choses comme ça. Mais la tête pensante et l'organe de répression majeur, ça devient, à partir donc de la mi-1942, ça devient le CIPO-SD.
Alia Aglan, historienne.
Et surtout, il y a des accords entre les polices. Alors, on croit souvent que ça initie une nouvelle forme de collaboration. En fait, ça entérine plutôt. Et puis, surtout, ces accords côté français donnent à la France l'exercice d'une souveraineté en matière de police qu'elle risquait de perdre. Et c'est pas facile de comprendre que la collaboration la plus poussée, c'est une sorte de fuite en avant des Français pour sauvegarder leur souveraineté, c'est-à-dire, mais regarder comme on est capable de bien faire les choses nous-mêmes. Donc c'est pas facile à comprendre, puisque là, il faut inverser quand même les termes du raisonnement. C'est que plus on collabore, plus on croit être souverain. Et donc la SS, elle peut faire des accords avec les doriotistes pour qu'ils partagent, par exemple, à mi-fruit, le butin qu'ils ramassent quand ils ont molesté des Juifs, pillé des appartements. Parce que ça va dans les caisses du PPF, et puis ils en mettent pas mal dans leur poche aussi, parce qu'ils doivent payer leurs équipes. C'est ceux-là, en fait, qu'on connaît le moins, c'est-à-dire c'est ceux qui sont dans les localités, qui connaissent très bien la région, et qui sont des armes absolument formidables contre la résistance, parce qu'ils connaissent le terrain, que les Allemands ne sont ni assez nombreux, ni assez... voilà, acclimater, je veux dire, pour connaître. Et c'est ceux-là qu'on connaît le moins bien, parce que c'est des bandes qui sont plus proches, à mon avis, de la pègre, enfin, ou du crime organisé, que de l'idéologie. Mais ils ont les mains libres, et en fait, ils font des affaires en même temps. Alors, on connaît la rue Lauriston, on les connaît de ce bord-là, capital, mais on les connaît moins... dans le Limousin, on les connaît moins dans le Lyonnais, on les connaît moins sur le terrain. Et je pense que leur contribution à la guerre civile est énorme.
22 juin 1942, déclaration du chef du gouvernement, Pierre Laval.
Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit avec d'autres consentir d'immenses sacrifices et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour l'acheter dans la bataille, elle va la chercher à Montigny au champ. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout.
Dès le retour de Pierre Laval à la tête du gouvernement en avril 1942, la collaboration s'intensifie dans le domaine économique et policier. Mois après mois, de la réquisition et du transfert de travailleurs vers l'Allemagne, à la déportation de résistants, de juifs étrangers et français vers les camps de concentration et les centres de mise à mort, Vichy bascule dans l'irréparable. Les ultras, eux, jubilent et tentent de profiter du chaos. Les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, 12 884 personnes sont arrêtées, dont 4115 enfants. Durant l'opération, des militants doriotistes tentent de se mêler à la répression. Quelques semaines après ce que fut la plus grande rafle visant les Juifs de France de toute la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle a fait le tour du pays. Dans une lettre, un militant francisque de la région de Grenoble évoque les rafles en cours.
Archives de la commission d'enquête sur les spoliations de Grenoble, interception d'un courrier du 6 août 1942. J'espère que les juifs de la zone non occupée doivent la trouver mauvaise, que l'État en rafle aussi par là. Hier, j'ai vu un train de Youtre arriver de Limoges, les types enfermés dans des 40 hommes 8 chevaux, cadenassés, un vrai régal. À Paris, de nouvelles rafles ces jours-ci ont fait du bien.
Alors, non seulement ça suit la rafle du Veldiv, mais on est au tout début des préparatifs, et ce courrier fait référence à ça, de l'expédition des premiers contingents de juifs qui ont été promis par Vichy aux Allemands depuis la zone libre. Et ce militant franciste voit passer un des premiers convois qui est sans doute parti de Rivesaltes dans les premiers jours d'août 42 ou de Gurs. Il y a un immense convoi qui amène plusieurs centaines de juifs vers la zone occupée et Drancy. Et il fait référence à ça. On est vraiment au moment où on a les grandes rafles qui vont marquer l'été 1942 des deux côtés de la ligne de démarcation. Et on voit dans ce courrier-là la jubilation que ça constitue. Et on peut entendre dans ces mots à quel point c'est cool, si je traduis dans le langage aujourd'hui, de voir les juifs désignés avec le terme hautement péjoratif de Youtre être embarqués dans des wagons à bestiaux. Ça montre plusieurs choses. D'abord, il est au courant, il voit à peu près ce que ça va donner à l'arrivée puisqu'il jubile. Mais il n'est pas le seul à être au courant. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les prises d'opposition de certains représentants des églises en France, catholiques et protestantes, notamment Mgr Saliège ou Mgr Théas, qui vont dénoncer en chair justement ces déportations. Donc d'un côté, vous voyez des humanistes qui dénoncent en chair ce qui est en train de se passer, ce qui va provoquer un mini tremblement de terre au sein de l'opinion publique et pour Vichy particulièrement, puisque pour la première fois, on va avoir des protestations contre une des politiques de la Révolution nationale. C'est la première fois depuis l'été 40 qu'il y a vraiment l'opinion publique qui se manifeste d'une manière importante contre quelque chose qui est décidé par Vichy. Et en même temps, ça remplit d'aise les antisémites forcenés.
1943, déclaration du chef du gouvernement, Pierre Laval.
Pourquoi est-ce que j'ai tenu un certain langage qui vous a blessé parfois, le jour où j'ai osé proférer cette phrase, qui a été comme une goutte d'acide sulfurique sur l'épiderme de certains Français? Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Et j'ai ajouté, parce que sans elle, le bolchevisme s'installerait partout en Europe. Aujourd'hui, je dis que si la puissance de l'Allemagne venait à disparaître, doit être sérieusement entamée, croyez-moi, retenez mon propos, prenez date, vous l'enregistrerez comme certains de ceux que je tenais jadis et qui faisaient hurler les hommes du Front Populaire quand je dénonçais la guerre qui venait. Le communisme s'installera chez nous. Alors voyez-vous le drame que je vis. Le drame que je vis, c'est que d'une part, je voudrais que ce pays, l'Allemagne, résiste, soit fort. Et d'autre part, je dois agir de telle manière que sa puissance n'écrase pas mon pays.
Alia Aglan, historienne.
Pour moi, Laval, c'est pas un ultra de la collaboration. Alors, il pense avoir une vision réaliste de la situation. Et d'ailleurs, il dit, moi, je suis réaliste. C'est-à-dire qu'il considère que l'Allemagne a gagné la guerre et qu'il faut se mettre du côté du Troisième Reich pour que dans l'Europe nouvelle, la France ait une sorte de rôle important dans cette organisation nouvelle du continent européen. Donc, il se présente comme un réaliste, comme quelqu'un qui va s'adapter à une défaite qui est définitive. Pour moi, Pierre Laval, c'est l'ivresse du pouvoir, fut-il collaborationniste. Je pense que Laval sert à déborder Vichy. Les ultras débordent Laval. Donc c'est vraiment une course en avant que l'ambassadeur Abetz est très conscient, parce que c'est une politique délibérée, il le dit. Il faut, entre les Français et nous, ces Français-là, les ultras, des liens de sang, de manière à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière.
À l'été 1943, sur ordre du parti, puisqu'il y a eu des négociations entre Carlo Berg, le chef de la SS et de la police allemande en France, et le directoire du Parti populaire français. Il y a des négociations en échange du fait que des hommes du PPF rentrent au sein de la police allemande, de la SIPO. Les Allemands concèdent à ce qu'une partie du butin qui sera pris aux Juifs arrêtés soit gardée par le parti pour les caisses du parti. Et André, chef du service d'ordre du PPF à Lyon, avec ses hommes du service d'ordre, rentre au service de la police allemande qui arrivait quelques mois avant à Lyon. Lyon est occupé à partir de novembre 1942. Il faut quelques mois pour que ses services s'organisent, notamment avec un homme qui va avoir une postérité importante, en l'occurrence Klaus Barbie, mais Barbie qui est la figure la plus connue de la police allemande de Lyon n'est que le numéro 2 ou 2 bis ou 2 terre. Le vrai chef de la police allemande à Lyon va être Werner Knab, qui est un homme qui a un itinéraire qui n'est pas inintéressant, puisqu'il est membre de l'Einsatzgruppe C, qui participe à Babillard, l'assassinat de quasiment 34 000 juifs en 2 jours en septembre 1941. Ensuite, il est membre de la SIPO à Kiev, et il va être finalement nommé à la fin du printemps 1943 la tête de la SIPO SD à Lyon. Donc on a Werner Knab, Klaus Barbie, une demi-douzaine d'autres hauts responsables de la police allemande de Lyon, hauts responsables pour cet échelon-là, notamment un homme qui va avoir un rôle important, Moritz. Et vous avez différents groupes de l'ultra-collaboration à Lyon, commençons par le Parti populaire français, qui vont venir garnir les rangs de la police allemande.
Francis André, dit gueule tordue, milite au Parti populaire français depuis 1937. Dès la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF, comme son chef Jacques Doriot, André devient volontaire et part combattre contre l'URSS. À l'Est, il est le témoin des persécutions, des ghettos, des travailleurs forcés et des pendaisons. Quelques mois après son retour en France, Francis André et d'autres militants du PPF deviennent des agents du SIPO-SD. Son groupe est l'un des plus actifs de la section 4 du SD lyonnais, celle de la police politique.
Alors, ils sont munis de cartes. Ensuite, ils ont droit à des uniformes ou des brassards du SD. Mais d'abord, c'est un travail qui est un travail de policier, autrement dit, il vaut mieux s'habiller en civil. Ensuite, ils ont des uniformes dont ils sont très fiers, ce sont les uniformes de leur parti. Et donc, ils paradent souvent dans les uniformes des partis plutôt que dans les uniformes allemands, même si de temps à autre, ils sont identifiés comme se baladant dans des uniformes de la SIPO-SD. Mais ils font vraiment partie de l'appareil policier allemand à part entière.
Et donc, ils participent à toutes les opérations de cet appareil répressif, c'est-à-dire
renseignement, arrestation, pillage. Et c'est là aussi où le langage pose problème. C'est pas qu'ils participent, c'est qu'ils réalisent. Il y a énormément d'opérations, et là, pour le coup, notamment le procès contre Francis André et ses hommes, qui va être tenu à Lyon par la Cour de justice, permet de voir comment ils opèrent. Il y a une immense partie des arrestations qu'ils réalisent qui sont réalisées en dehors de toute présence allemande. Donc ça montre bien qu'ils participent pas. Ils sont acteurs. Ils ont une lettre de mission au sein de la police allemande. Ils ont aussi les coups des franches. Et donc, ils arrêtent massivement des juifs, cible facile. Ils infiltrent les réseaux de résistance. Ils arrêtent des résistants. Et ils occasionnent énormément de dégâts au sein de la résistance. Et cela de leur propre initiative. Donc, ils sont sous les ordres d'Allemands d'un point de vue factuel. Mais concrètement, ils opèrent comme bon leur semble dans le cadre qui leur est fourni par les Allemands, qui est un cadre très lâche. Mais en plus, donc il y a eu les négociations entre Lebrun, représentant du directoire du PPF, et Carlo Berg, et qui avaient été conclues sur le fait que une partie du butin pris sur les Juifs sera reversée dans les caisses du parti. Mais il y a aussi une partie du butin pris sur les Juifs qui va directement dans les poches des ultras de la collaboration qui s'enrichissent grâce à cela, qui leur permettent de mener grand train. Ce qui va aussi amener une chose très particulière, mais qu'on retrouve dans plein d'endroits différents, c'est que pour pas avoir reversé une partie du butin aux Allemands, ils vont se charger eux-mêmes de faire disparaître les Juifs. Si on remet un Juif au service allemand pour qu'il soit détenu à Montluc puis ensuite déporté, ça veut dire qu'ils ont arrêté des Juifs et qu'il y a des choses à piller. Alors que si vous exécutez un Juif et que vous balancez son corps dans le Rhône, dans l'Isère où vous l'enterrez, en fait, vous n'avez rien à rapporter aux Allemands. Vous êtes débarrassé des Juifs et vous récupérez le butin pour vous-même. Et on sait qu'André, que d'autres à Grenoble comme Guy Clash, encore un autre qui s'appelait Berton, qui était lui membre du service spécial de la milice française, ont opéré de cette manière, en exécutant les Juifs qu'ils arrêtaient et en balançant leur corps pour les faire disparaître.
C'est des dizaines et des dizaines. En fait, ce sont des crimes qu'on n'a même pas pu compter, tellement c'était par centaines. Et c'est dans les mémoires de Yves Farge, qui était commissaire de la République dans la région lyonnaise, quand il arrive. Il va avoir tellement de chocs, avoir tellement de crimes, parfois odieux, puisque ce sont parfois des crimes qui se répondent, hein. La résistance se venge, les autres assassinent dans les mêmes lieux parfois, qu'il va fonder le mémorial pour l'oppression, c'est-à-dire qu'il va documenter immédiatement ce qu'il a considéré être des crimes de guerre. Mais il est vrai qu'on dit toujours, c'est les Allemands qui ont exécuté un tel, il y avait toujours quelques Français.
Gilles Morin, historien.
Beaucoup vont faire ce qu'on appelle à l'époque des opérations de faux policiers. C'est-à-dire qu'ils se présentent chez quelqu'un, un juif de préférence, ça c'est bien, parce que ce sont des gens plus fragiles. Ils vont donc aller chez eux et puis les menacer. On vient vous arrêter, etc. Ah, si vous me donnez 10 000 francs, ça peut se discuter. Parfois, ça peut être beaucoup plus. Ils peuvent revenir plusieurs fois, etc., etc. Et à la fin, souvent, d'ailleurs, ils arrêtent et ils touchent des primes pour les arrestations. Donc, si on arrête un résistant, on a une prime forte. Si on arrête un juif, ça dépend du juif, mais on a une prime minimum. Donc, parfois, ils l'ont deux ou trois fois spolié de ses biens en l'obligeant à faire. Et puis, à la fin, il ne peut plus donner, il peut donner lui-même. Et ça rapportera quand même. Est-ce que c'est lié à Vichy directement? C'est très compliqué. C'est-à-dire que, généralement, non. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent pour les nazis, qui ont des protections avec des cartes de protection, qui dit non seulement que la police, par exemple, n'a pas le droit de les arrêter, elle peut les interpeller, mais dans ce cas-là, il y a sur la carte de protection un numéro de téléphone de leur agent traitant qui dit « il faut téléphoner donc à ce numéro-là, et là, on va vous dire ce qu'il va faire. Soit vous le gardez, c'est nous qui décidons, soit vous le relâchez, c'est nous qui décidons. » Les Allemands protègent ce genre d'individus qui, du coup, se moquent complètement de la police. La police les hait, sauf quelques policiers collaborationnistes. Mais sinon, généralement, les policiers se retrouvent face à des individus qui sont, pour une part, des truands, des petits malandrins, qui, d'un seul coup, n'en peuvent plus de puissance, ont des armes, etc., etc., qui peuvent rentrer dans un commissariat et menacer le commissaire. Donc, vous imaginez bien, la police de Vichy n'aime pas ce genre de personnage, en règle générale. Après, il y a les cas particuliers.
La machine oppressive nazie est complexe. L'occupant la bricole au gré des événements et selon les territoires où elle s'impose. Rien n'est vraiment cloisonné. Les frontières entre les services sont lâches et de plus en plus au fil des mois. Les Allemands délèguent, les Français prennent l'initiative. Ce qui lie ces hommes aux différents uniformes, c'est la terreur qu'ils engendrent et utilisent comme arme. En 1944, à Lyon, plusieurs actions communes ont lieu entre la Gestapo, les ultras et la milice. Nicolas Lebourg, historien.
On a une radicalisation de Vichy qui existe. Le Vichy 1940 et le Vichy 1944 ne sont pas les mêmes. Il faut bien voir qu'au début de Vichy, les chefs des partis collaborationnistes rêvent tous de devenir le chef d'un parti unique, de voir un régime à parti unique être installé en France et permettre ainsi une fascisation du pays. Bon, le maréchal Pétain ne va pas vouloir de ce système de parti unique. Néanmoins, on va avoir une évolution qui va permettre le développement de ce qu'on appelle la milice française. La milice française, qui est un mouvement ultra qui travaillent à la répression contre la résistance, en particulier en ayant des liens avec la Gestapo, et qui va phagocyter l'État, phagocyter le régime et chercher à le pousser effectivement dans la radicalité.
Alia Aglan, historienne.
Oui, c'est un État milicien qui se met en place à partir de la fin 43. Pour une raison, c'est que Vichy n'arrive pas à maintenir l'ordre contre les bandes de terroristes, que comme disent les Allemands. Et donc cette répression, elle va être instituée et incorporée au sein même de l'État. Philippe Henriot à l'information, c'est-à-dire à la propagande, Déa au travail en mars. Mais c'est beaucoup plus important ce qui se passe à un niveau inférieur, c'est qu'en fait tous les directeurs de prison vont être remplacés par des miliciens. La milice s'introduit partout. Donc c'est le règne de la milice, ils peuvent entrer à la prison de la santé, juger des résistants et les exécuter immédiatement dans la cour de la prison.
Henri Rousseau, historien.
Les six premiers mois de l'année 1944, la fin de 1943, le gouvernement se trouve devant une situation quasi insurrectionnelle en France, avec la montée des maquis, le rôle de la résistance. Bon, le débarquement de Normandie va évidemment changer la donne de manière considérable, la France redevient, après 4 ans, un champ de bataille. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on voit le débarquement comme « Ah, c'est quelque chose de formidable et tout ». Du point de vue français, évidemment, c'était l'attente des libérateurs, mais la France redevient un champ de bataille. Donc la guerre revient à nouveau sur le sol français avec une énorme inquiétude. On le sait par beaucoup d'éléments, de traces qui traversent toute la société française de l'époque. Est-ce que c'est pas le moment où une guerre civile sanglante peut éclater puisque le gouvernement de Vichy a quand même pris clairement parti pour l'envahisseur. Et puis effectivement, vous avez ces collaborationnistes qui ne rêvent que d'une chose, que d'en découdre avec la résistance. Une partie d'entre eux l'a fait. C'est la milice. Et pour être plus précis, la milice était une sorte de parti tout en ayant été intégré à l'État. Enfin, Joseph Darnan a été secrétaire d'État au maintien de l'ordre. C'est-à-dire équivalent de ministre de l'Intérieur. Bon, donc les forces de la milice, les forces militaires, ce qu'on appelait la frangarde, vont agir contre la résistance. Vont participer, voire même prendre des initiatives, notamment le maquis des Glières qui va être détruit en partie par la milice, on participeront à la réduction du maquis du Vercors, vont pourchasser les résistants partout en France, enfin surtout dans le sud, vont pourchasser les Juifs. Donc on a déjà des éléments de guerre civile.
À Caen, aux archives historiques de la Défense, il y a plusieurs dossiers sur les crimes de l'année 1944. Dans ces pochettes, on trouve de nombreux témoignages et des photos de corps meurtris, retrouvés dans des puits, dans des champs ou dans des marécages. Parmi ces corps, ceux de Victor Bache et de son épouse Hélène. Victor Bache était cofondateur de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Ils avaient tous les deux 80 ans, ils étaient juifs. Le 10 janvier 1944, ils sont exécutés puis jetés dans un fossé à Caluire, dans la banlieue de Lyon. L'opération a été menée conjointement par la Gestapo et la milice. Le milicien Paul Touvier participe à l'arrestation. Joseph Lécussant, un ancien de la cagoule, est directeur régional du service des questions juives et l'un des exécuteurs. Quelques semaines après cet assassinat, ce chef régional de la milice déclare devant des journalistes
« Uriage 1944 ». Il y a des Français qui se sont exclus de la communauté nationale. Ce sont d'abord les Juifs que la race sépare de nous. Ce sont ensuite tous ceux qui sont pris les armes à la main ou qui ont participé à des attentats. Pour cela, aucune pitié, ils doivent être tués. Il n'existe d'ailleurs qu'une solution au problème juif, les supprimer. Pour ma part, j'en ai déjà tué deux. C'est très simple de tuer un homme.
Uriage est une ville d'Isère où se trouve l'école des cadres de la milice. Tous les francs-gardes, reconnaissables à leur béret noir, y passent. Parmi eux, Raoul D'Agostini. D'Agostini, un ancien de la coloniale, puis de la LVF. Dans les archives, on retrouve son nom cité dans des dépositions évoquant des massacres en Biélorussie et en Pologne. En février 1944, il est en France. Devenu milicien en armes, il participe à de nombreuses opérations contre le maquis, notamment en Haute-Savoie, dans la région des Glières. Dans son sillage, des fermes incendiées, des villages détruits, des civils exécutés.
Pour l'ultra-collaboration, il y a le front extérieur, le front de l'Est, et le front intérieur, lutter contre le judéo-bolchevisme, la résistance en fait, à l'intérieur en France, pour protéger les deux fronts face aux menaces qui s'abattent dessus. Et D'Agostini et De Witt, qui sont deux officiers qui ont eu des responsabilités au sein de la LVF et qui ont détruit des villages, on le sait, pour les deux, notamment les incendiants, vont redéployer leur savoir-faire qu'ils ont appris dans la coloniale d'abord en Afrique, mais surtout sur le front de l'Est. Ils vont le réinvestir en France en 1944 quand ils vont être lâchés en opération avec la franc-garde de la milice. Et c'est là où il y a quelque chose qui est très mal compris, c'est qu'on a l'impression que d'un côté il y a la LVF et que de l'autre côté il y a les ultra-collaborateurs en France. Mais en fait c'est les mêmes, c'est-à-dire le PPF, Doriot est parti combattre sur le front de l'Est, le PPF garnit les rangs de la police allemande en France, comme le fait le RNP, comme le font d'autres mouvements de l'ultra-collaboration, comme le fait aussi la milice, qui va envoyer des hommes à l'Est, notamment avec la Waffen-SS fin 1943, quand Darnand prête serment à Hitler en septembre 1943, une partie des cadres de la milice française rallie la Waffen-SS. Ces hommes-là circulent, ou en tout cas, une partie des hommes de ces partis ou de ces mouvements de l'ultra-collaboration circulent, savent ce qui se passe à l'Est, évidemment, mais aussi réinvestissent le savoir-faire qu'ils ont acquis à l'Est en France.
Philippe Douroux, journaliste.
D'Agostini devient tellement sadique, tellement acharné, tellement violent, que Darnand, le chef de la milice, le révoque. Il faut le faire. Il intervient notamment dans un lycée dans l'Ain, contre des enfants. C'est d'une violence absolument terrible. Et donc, lui sera évincé de la milice. D'Agostini, il y a un document qui est épouvantable où il demande à deux anciens de la LVF de tirer sur des femmes et des enfants qui s'échappent. Et les deux de la LVF ne veulent pas. Et il leur dit, mais enfin, quoi, vous les voyez pas? L'un d'eux dit, non, je les vois pas. Bon. Donc il va chercher une femme et des enfants, et il leur donne son pistolet, et il lui dit, et là, tu les vois? Et le type, c'est pas pour... Enfin, on a tous des limites, lui a atteint sa limite, il dit, non, je les vois pas. Mais D'Agostini, il a aucun souci. D'Agostini, c'est... Dans les tortionnaires, c'est... C'est un des plus grands.
Lyon, 14 mai 1944.
Dans Lyon, abondamment pavoisé aux couleurs nationales en l'honneur de Jeanne d'Arc, dont c'est aujourd'hui la fête, M. Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information et à la propagande, va prononcer un important discours politique. Et 15 000 personnes environ l'ont choisi comme point de rassemblement, se sont installées sur la pelouse centrale et sur les gratins. Mais la parole de l'éditorialiste du Radio-Journal de France pourra largement déborder ce cadre et toucher la masse du public lyonnais, car des haut-parleurs ont été installés dans la salle des fêtes de la Bourse du Travail et dans diverses rues de la ville. Et ces haut-parleurs répéteront par deux fois au cours de l'après-midi le discours du ministre.
Militant catholique, milicien, Philippe Henriot est un homme de Pétain devenu au fil des mois la voix des ultras. Son arme, ce sont les mots et la radio. Chaque jour, sur les ondes collaborationnistes, cet homme devenu ministre de l'information déverse sa haine contre les Juifs, les Anglais, les communistes et les résistants. Ce 14 mai 1944 à Lyon, ils sont près de 15 000 à être venus l'écouter. Sur l'une des photos de l'événement, on reconnaît Raoul D'Agostini, en civil, installé dans le carré des officiels. Paul Touvier, comme Francis André, sont peut-être également là, au milieu de la foule.
Les Français n'ont pas maintenant à se demander éperdument.
Philippe Henriot, ministre de l'Information.
Est-ce qu'il y a des chances de gagner? La question n'est pas de jouer sa carte sur un vainqueur quelconque. La question est de constater que, quels que soient les mots qui nous menacent, le plus grave de tous, ce sont nos divisions et nos querelles. Ce n'est pas dans une ville comme Lyon, ce n'est pas dans une région comme Lyon, ce n'est pas devant le panneau qui est au pied de cette tribune. Il faut que je vous rappelle cette vérité tragique, qu'à l'heure actuelle, les Français non seulement sont victimes des bombardements aériens, mais le Parti communiste opère chez nous par le terrorisme et l'assassinat individuel. Au début, vous n'avez pas voulu le croire. Je vous connais bien. Je sais vos réflexions. Vous avez cru que vous vous mettiez à l'abri. Vous aviez dit que vous n'étiez pas des miliciens. Qu'après tout, c'était bien fait, puisque cela voulait y aller. Vous avez pensé que c'était réservé à un certain nombre de gens qui se compromettaient. Et comme vous êtes des malins, vous ne vous compromettez jamais. Eh bien maintenant, on va chez n'importe qui, chez le premier venu. On va dans les mairies pour voler des tickets d'alimentation. On va dans les habitations particulières pour tuer les propriétés. On va abattre un médecin à l'heure de sa consultation. On pénètre dans le cabinet d'un avocat. On descend un magistrat à son domicile. Rien n'est sacré, rien ne compte plus.
Ce que Philippe Henriot ne dit pas, ce sont les morts des ultras, de Vichy et de l'occupant allemand. À quelques kilomètres de ce meeting se trouve la prison de Montluc. Le 6 avril, 44 enfants juifs âgés de 5 à 17 ans et 7 adultes juifs de la colonie d'Izieux sont internés à Montluc pendant 2 jours avant d'être déportés. Aucun enfant ne survivra. À Montluc, durant ce printemps, cellule 75, se trouve également l'historien et résistant Marc Bloch.
Vous avez, en mars 1944, une énorme opération de démantèlement des murs des mouvements unis de la résistance, menée par la police allemande, au cours de laquelle notamment Marc Bloch sera arrêté, mais c'est loin d'être le seul à être arrêté, où là vous avez un nombre très très important de membres de l'ultra-collaboration qui réalisent des arrestations, parfois en compagnie d'Allemands, souvent sans les Allemands. Ce qui montre l'importance déjà qu'ils jouent à ce moment-là en termes de fonctionnement pour la police allemande, et ensuite, parce qu'ils arrêtent au quotidien des Juifs et des résistants pour le compte des Allemands. Savoir combien de personnes ont été arrêtées concrètement par tel ou tel, c'est impossible de le savoir. Mais on sait par les témoignages, soit de rescapés, soit de témoins des arrestations, que régulièrement les Français, comme André, mais comme d'autres, arrêtent les gens. Et on sait par ailleurs qu'ils sont responsables de dizaines d'exécutions sommaires, pas uniquement de représailles, comme l'opération du mouvement national antiterroriste, mais aussi parce qu'ils soit ils veulent se débarrasser des gens qu'ils arrêtent pour tout un ensemble de raisons, soit parce qu'eux-mêmes vont développer leur politique de représailles. Et il va y avoir, par exemple, dans le Nord-Isère, un accrochage entre des voitures du groupe André et la résistance, et en représailles, ils vont chercher les Juifs qui habitent dans le coin et en exécuter certains. Donc on est vraiment dans les mêmes logiques, les mêmes modes de fonctionnement que les Allemands.
Le 16 juin 1944, 10 jours après le débarquement en Normandie, Marc Bloch, avec d'autres résistants, sont sortis de Montluc, puis fusillés à Saint-Didier-de-Formans. 3 jours plus tôt, des internés avaient déjà été exfiltrés de Montluc, puis amenés dans un village pour y être fusillés. Des mois plus tard, dans le journal L'Éclaireur de l'Ain, un témoin raconte.
La colonne de camions ne s'avançait que fort lentement. Un train d'enterrement. Dans ce dernier camion, 19 civils de toutes les classes de la société se tenaient entassés, debout, assis, affalés. Et autour d'eux, 12 brutes vêtues de l'uniforme allemand, armés jusqu'aux dents, surveillaient. Pas un mot, pas un bruit. Le regard vague, comme perdu dans un rêve bien cher, ces innocents, qui avaient maintenant la certitude de leur fin toute proche, évoquaient d'autres bambins dans un coin de France, d'autres petits qui étaient les leurs et qu'ils ne reverraient jamais, d'autres maisons où des êtres chéris les attendaient. Face au petit bois, le convoi s'arrêta. Descendez et allez. Le premier groupe de 6 exécuta les ordres. Par derrière, les balles les couchèrent devant leurs camarades horrifiés et qui attendirent leur tour. La deuxième, puis la troisième vague suivirent. Des coups de grâce. Le silence général de la mort.
À partir du début du mois de juin 1944, vous allez avoir une quinzaine d'opérations où on va extraire des prisonniers de Montluc par groupe de 10, 15, 20 ou 30 et les exécuter sommairement, mais de manière à marquer l'opinion publique. Et donc vous allez avoir des fusillades un peu partout, entre l'Ardèche, la Drôme, le nord de l'Isère et le Rhône, et même l'Ain, où on va lancer les corps, enfin c'est même pas lancer les corps, c'est qu'on exécute les gens au bord d'une route et on laisse les corps, et c'est la population locale qui les trouve.
C'est des Français
mais... Et justement, sur les témoignages dont on dispose, on sait qu'il y a des Français qui participent à ces exécutions sommaires. André explique que ça a été décidé par Barbie. Les témoignages d'André sont à prendre avec des pincettes parce qu'il ment énormément. Mais c'est sans doute Werner Knab et Klaus Barbie qui ont jeté les bases de ces exécutions et qui ont décidé concrètement de leur réalisation. Mais on sait qu'il y a des Français qui participent aux fusillades qui sont réalisées. Et dans le point d'orgue, ça va être l'exécution de la plupart des Juifs qui restent ici en août 44 sur le site de l'aérodrome de Bron, à côté de Lyon, et plus de 115 personnes à Saint-Genis-Laval, essentiellement des résistants, mais aussi quelques droits communs qui étaient encore détenus à Montluc, qui vont être exécutés à Saint-Genis-Laval, là aussi, par des Allemands et sans doute des Français de l'ultra-collaboration.
Au lendemain de la libération, un peu partout en France, on va trouver des corps, on va trouver
des fosses communes, des
Gilles Morin,
des puits pleins de cadavres, et puis on a trouvé aussi dans la période qui précède la libération, il y a eu beaucoup d'opérations où on a enterré des gens parce qu'ils avaient été exécutés lors d'une opération ou autre, avec des cas terribles, par exemple, c'est en Franche-Comté, où, alors là, on est vraiment limite de la guerre civile, hein. On a un jeune membre d'une famille collaborationniste, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas assez insisté, mais ces collaborationnistes sont souvent en groupes familiaux, groupes affectifs et autres. Mais il y a vraiment, c'est des pôles, hein. Et donc, un jeune faisait partie d'un de ces groupes. Ses parents sont tués par la résistance. Pas dans un coin, on rigole trop, du côté de la Savoie, du côté de du Doubs et autres. Les règlements de compte locaux sont, on s'y connaît bien. Il va à l'enterrement avec les deux frères survivants, leur tire dessus à la mitraillette dans le truc. Et quelques semaines après, il y a un enterrement de jeunes qui ont été tués, mis dans un bois, on les a retrouvés dans un bois. Tout le village va à l'enterrement et des supplétifs et leur chef allemand tirent à la mitraillette dans la population lors de l'enterrement. Si vous imaginez. Des scènes comme ça, ça existe évidemment.
Bien sûr.
Alia Aglan.
Bien sûr. Il y a notamment l'épisode des puits de Guéry dans le Cher où ils ont précipité, je ne sais pas si, je me souviens plus si ce n'est pas 80 personnes vivantes dans des puits. Et oui, ça, ce sont les bandes. Évidemment, il y a des agents du SD allemands sur place, mais le SD de Périgueux emploie énormément de Français. Il y a aussi eu un rapport du préfet de la Dordogne après la guerre, je crois que c'est de 47, où il y a 80 pages de crimes, canton par canton, village par village. Personne ne peut connaître à ce point les villages de Dordogne pour arriver, dire « donnez-nous les noms des Juifs, rassembler tout le monde avec les républicains espagnols, les liquider sur place et repartir ». Donc forcément, ils sont renseignés. Il y a des gars du pays qui participent ou qui donnent en tous les cas des informations.
Le 28 juin 1944, à Paris, Philippe Oriot est abattu par des résistants. Le soir même, le chef du gouvernement, Pierre Laval, lui rend hommage.
Vous êtes venu comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Oriot. Vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à coups de revolver, sous les yeux même de sa femme. Les assassins avaient réussi à arriver jusqu'à lui, en se faisant passer pour des gardiens et des défenseurs venus pour le protéger. Vous reconnaissez là la guerre sauvage et sans honneur qui se nomme la guerre civile.
Le 29 juin, en représailles, Paul Touvier fait sortir 8 otages des cellules de la milice de Lyon. Il en sélectionne 7, 7 juifs. Au petit matin, devant l'un des murs du cimetière de Rieux-la-Pape, ils sont exécutés à la mitraillette, puis achevés d'une balle dans la nuque. Quelques jours plus tard, à Notre-Dame de Paris, des milliers de Parisiens accompagnent le cercueil de Philippe Henriot.
Notre-Dame marque aujourd'hui la dernière étape des funérailles de Philippe Henriot. Après l'hommage recueilli de ses collaborateurs dans ce modeste hôtel ministériel de la rue Solferino où la mort est venue frapper, après l'hommage fervent de la population parisienne sur cette place de l'hôtel de ville, déployant tout son panorama d'histoire, c'est aujourd'hui, sous les voûtes de la grande cathédrale, l'hommage de la nation.
Ces funérailles sont le dernier événement de Vichy et des ultras sur le sol français. 55 jours plus tard, Charles de Gaulle et des milliers de Parisiens s'y retrouvent également pour célébrer la libération. Pascal Horry, académicien et historien.
On a beaucoup glosé, et parfois avec une sorte de grimace un peu sarcastique, et ça pouvait d'ailleurs venir plutôt de la droite ou de l'extrême droite, sur le fait que, quand même, ces Français qui applaudissent le maréchal Pétain au printemps, quand il passe par Paris, ou qui sont présents aux obsèques de Philippe Henriot, pourraient ajouter d'autres épisodes comme ça au cœur du printemps 44, avant le débarquement, après le débarquement. Alors, est-ce que ce seraient les mêmes qui auraient retourné leur veste? Je crois pas que ce soit ça. Je crois qu'il y a assez de place dans la société parisienne, d'abord, la société française, pour les deux. En revanche, j'insisterai toujours, je le fais souvent auprès de mes étudiants, sur le fait qu'il n'y a aucune raison de penser qu'en 1944, 100% des Français soient du côté des libérateurs. Mais ça n'existe pas. Jamais dans l'histoire du monde, un peuple ne descend dans la rue. C'est une partie. Donc vous aviez dans cette France, ce cher et vieux pays, assez de place pour qu'il y ait ces deux manifestations qui ne sont pas affrontées, qui sont complémentaires. Par ailleurs, il y a certainement eu des phénomènes d'opportunisme.
Alors que les derniers ultras ont pris la fuite, le milicien Raoul D'Agostini a préféré rester à Lyon. Arrêté, il est transféré à Montluc. Interrogé, il trahit ses anciens amis, parmi lesquels Paul Touvier. Condamné à mort, D'Agostini est fusillé le 10 septembre 1944. Paul Touvier, en revanche, a plus de chance. Grâce à la complicité de l'Église et d'anciens ultras de la collaboration, Touvier échappe à la justice. Ce n'est qu'en 1989 qu'il est arrêté pour crime contre l'humanité, en particulier pour son rôle dans l'exécution des 7 juifs de Rieux-la-Pape. En 1994, Paul Touvier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
À la fin du mois d'août 1944, un peu avant la libération de Lyon et donc de la prison de Montluc, une partie des miliciens, mais aussi des hommes autour de Francis André, quittent Lyon, direction l'Allemagne. Que sait-on des derniers mois en guerre de Francis André et de ses hommes?
C'est là où on peut voir à quel point ces hommes sont mal compris. Francis André, qui est un militant depuis 1937, c'est-à-dire quelques mois à peine après la création du PPF, il rallie le PPF, il part combattre sur le front de l'Est au nom du PPF, il se met au service de la police allemande au nom du PPF, évidemment, en conformité avec son idéologie. Quand il fuit Lyon à la fin du mois d'août 1944, André se retrouve à Sigmaringen, en fait sur l'île de la Méno, où se trouve le PPF, qui lui n'a pas été à Sigmaringen, mais c'est Sigmaringen d'une façon générale, mais le PPF est à l'écart sur l'île de Méno. Et André va devenir le garde du corps de Jacques Doriot. Donc ça montre à quel point, idéologiquement, c'est quelqu'un qui fait partie de l'appareil du PPF, que Doriot se repose sur lui, et c'est lui qui va être un des plus proches de Doriot en Allemagne. Jusqu'au bout, ils ont mis leur vie au service de leur cause. La cause d'André, c'est le Parti populaire français, son programme politique, son idéologie.
Pendant l'été 44, alors qu'une partie de la France est libérée, C'est la fin de l'aventure de la LVF et des Waffen-SS français, du moins première génération. À la fin de l'été 44, les hommes français en uniforme allemand de la Wehrmacht et ceux de la Waffen-SS sont rassemblés à Wiflecken. Et au mois d'octobre, les miliciens qui se sont échappés les retrouvent. C'est le début de la division Charlemagne. Que sait-on de cette division ?
On sait que c'est la volonté de Himmler de mettre tous les collaborateurs militaires français dans une seule unité.
Philippe Douroux. Voilà.
Donc elle s'appellera la Charlemagne, elle avait failli s'appeler la Gobineau, qui était l'inventeur du racisme. Mais ils ont préféré Charlemagne, dont l'Empire partait de l'Allemagne et allait jusqu'au sud de la France. Et là, on retrouve les anciens de la LVF, les anciens de la brigade Waffen-SS des volontaires français, les anciens de la Kriegsmarine, des anciens du NSKK, qui était l'organisme, disons, de transport du parti nazi. Bref, tous les Français s'y retrouvent. Certains vont vouloir combattre, ils vont à Wiflecken, d'autres abandonnent le combat de fait, et ils se rassemblent là. Ils vont faire de l'instruction parce que c'est la Waffen-SS et que la SS a beaucoup d'instruction. Donc ils vont dans des écoles, les uns et les autres, tout l'automne 1944. En janvier 1945, ils sont prêts à aller au combat, mais ils n'ont rien de prêt. Et l'armée allemande est dans un tel état qu'ils vont être jetés dans la bataille le 24 février, dans mon souvenir, de 1945.
Henri Rousseau.
Je vais être assez cynique. Les Allemands ont pris la chair à canon et ont laissé de côté les chefs dont ils n'avaient rien à faire. Voilà. Et ils ont été envoyés. Tout ce que moi j'ai entendu, des témoignages, ce que j'ai pu lire, il y a quand même pas mal de témoignages, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts.
En février 1945, sur le front de la Poméranie.
Quelle ironie du sort, hein. Marcel Déa, c'est un des grands articles des années 30 du pacifisme qui n'est pas encore collaborationniste. Mais vous avez entendu Marc Augier, il était déjà du côté des nazis, bon, en 38. Bon. Donc ça, c'est les Munichois pro-nazis. Je n'irai pas mourir pour les Poldevs. Je n'irai pas mourir pour Danzig. Ils sont morts pour Danzig. C'est drôle, ça fait écho parfois à des phrases qu'on entend aujourd'hui.
C'était les Ultras de la collaboration. Troisième épisode, des Français en guerre contre d'autres Français. Avec Alia Aglan, Tal Brutmann, Philippe Douroux, Nicolas Lebourg, Gilles Morin, Pascal Horry, Henri Rousseau. Merci au Mémorial National Prison de Montluc et à Martin Laurent de Temps Noir. Coordination documentaire, Emmanuel Laurentin. Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Prise de son, Benjamin Troncin et Mathieu Tourin. Mixage, Manuel Couturier. Lecture, Evelyne Guimara. Documentation INA, Véronique Jolivet. Une série documentaire de Jean Bulot et Gaël Gillon.